listening to RockKick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wacha!
8 à 12, 14 à 18.
The Punisher.
Chris the Sport Missile.
Il est 11h18, 17h18, on a M. Reichmann au bout du fil, c'est simple, on va commenter ce qui s'est produit, oui, lors, l'après, oui, c'est ça, l'après-débat Sarko-Sego, avoir ses impressions et tout de suite, sans plus tarder, je le salue. M. Reichmann, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour M. Trépanier, je vais très bien et vous-même aussi.
Ben oui.
Parce que vous vous êtes relevé de ce débat, je ne sais pas si vous l'avez suivi.
Ah, je l'ai suivi, M. Reichmann, je l'ai écouté d'un bout à l'autre, près de deux heures.
Et vous êtes encore en vie?
Enfin, j'ai eu quelques difficultés après.
Ah bon?
De survie.
Bah, écoutez, moi je vais vous avouer que je l'ai suivi, mais que je me suis endormi aux environs de deux heures après le début.
Mais c'est certain.
Alors, j'ai quand même lu la suite dans le journal, donc
Le Parisien.
Suis capable de vous en parler.
OK. Ça ressemble à quoi, grosso modo, pour ce qui est de... Par exemple, on va commencer par votre préféré, j'en suis sûr que vous allez me dire, ah ben oui, ma préférée, c'est Ségolène Royal.
Alors écoutez, d'abord, ça n'est pas ma préférée.
Non, je blague.
Vous aimez toujours blaguer, c'est très bien, vous avez raison. Mais je vais vous dire, ce débat, en réalité, nous nous sommes trompés. Ça n'était pas du tout un débat politique. C'était une séance sadomasochiste. et oui, parce que vous aviez d'un côté une femme à l'air sévère, Cruella, et l'autre, un petit bonhomme rabougri qui disait « Oh, c'est pas très gentil, oh, vous êtes pas très gentil. » Enfin, il avait l'air d'avoir un plaisir fou à se faire frapper et humilier, parce que ça lui paraissait de paraître, ça lui permettait de paraître modéré. Son obsession à Nicolas Sarkozy était de surtout ne pas faire peur, car ses conseillers lui-même considéraient que son principal handicap, c'était la crainte qu'il inspire dans de nombreux milieux et chez de nombreuses personnes d'apparaître comme brutal, comme sans nuance, comme capable d'emportement. Donc ce qu'il lui fallait absolument pour gagner ce débat, c'était surtout de ne pas s'énerver. Et Ségolène Royal devait, elle, faire preuve d'autorité et d'autre part essayer d'énerver Sarkozy. Donc ça nous a donné une véritable séance sadomasochiste.
Attention, monsieur.
On a eu vraiment le déroulement absolument identique à ce type de séance.
Monsieur Reichmann, avez-vous eu l'impression, je vais vous donner deux stéréotypes pour Sarkozy, qu'il fallait vraiment qu'il donne l'impression que c'est un homme qui est responsable, qui est mature et qui est posé, et tandis que du côté de Ségolène Royal, elle donnait l'impression d'être la maîtresse d'école qui allait rétablir l'ordre et justement imposer les règles pour que justement, dans la classe, les gens se tiennent. Est-ce que c'était un peu ce genre de stéréotype-là qu'on pouvait voir des deux côtés?
Oui, c'est assez proche de ce qui est apparu aux téléspectateurs.
Oui.
Je crois qu'en ce qui concerne Ségolène Royal, l'image est juste. Elle a vraiment ce caractère. Et je ne pense pas qu'elle ait eu besoin de se forcer beaucoup pour apparaître telle.
Okay.
En ce qui concerne Sarkozy, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas du tout l'homme posé, responsable, tranquille. C'est un homme agité perpétuellement, très emporté, sujet à de violentes migraines. Enfin, il n'est pas du tout l'homme stable qu'il veut paraître, mais il en a donné l'impression, et de ce point de vue-là, il a gagné le débat, car les sondages qui ont suivi ont montré très nettement que la préférence des téléspectateurs allait à Sarkozy, ce qui s'est traduit immédiatement dans nos intentions de vote, qui semblent aujourd'hui quasiment définitives,
oui.
À un écart de points d'environ 7 points.
C'est ça.
54-47 ou 53,5.
On parlait de 52 ou quelque chose comme ça.
Il y a un sondage qui donne 52, mais c'est le seul. Les autres sont au-dessus. Alors, cela étant dit, les sondages sont ce qu'ils sont et on n'est pas obligé de les prendre au pied de la lettre.
Bien sûr que non.
Il semble bien quand même que les électeurs soient décidés à voter davantage pour Sarkozy, ce qui va nous projeter évidemment très vite dans une situation qui va être tout à fait nouvelle. Car s'il est vrai que jusqu'à présent, les présidents de la République qui ont été élus abordaient l'élection avec une majorité relativement cohérente et relativement capable de faire ce qu'on attendait d'eux. Tel n'est pas le cas de Sarkozy, qui va dès le premier jour être affronté à une situation qui est très difficile et dont on n'a absolument pas tiré les leçons pendant la campagne présidentielle. Et il va devoir affronter cette situation avec d'une part un programme et des engagements relativement volontaristes et assez énergiques, et d'autre part une équipe gouvernementale incapable d'appliquer cela, car ça fait 30 ans qu'elle fait le contraire.
Okay.
C'est exactement comme si vous demandiez à des gens qui sont maigres et fluets de se mettre à soulever des haltères. Bon, ça n'est pas avec ces gens-là qu'on peut faire une équipe d'haltérophiles. Eh bien, il en est de même avec l'équipe de Sarkozy, qui n'a jamais, mais vraiment jamais, pour aucun de ses membres, pris des décisions ou fait appliquer des décisions correspondant aux propos de Sarkozy. Donc c'est une situation absolument ahurissante, qui va bien sûr se traduire très vite par une déception très importante, car ce que dit Sarkozy manifestement plaît, et la preuve c'est qu'il a de bons sondages et qu'il va sans doute être élu, plaît à une bonne partie de l'électorat, mais ce qu'il est capable de faire c'est tout autre chose, et moi je suis très surpris de l'imprudence de certains commentateurs qui nous expliquent que une étape a été franchie, désormais la droite est décomplexée. En réalité elle est décomplexée en parole, mais elle n'est pas décomplexée en actes, et ce sont les actes, vous le savez mieux que personne, qui en politique sont les
seuls. Voilà, exactement. Et par contre, j'ai vu à un certain moment donné, et je suis percé. C'est drôle, j'ai comme l'impression que c'est ce moment-là qu'on a eu tous et chacun en regardant le débat de Sarko et Ségolène Royal. C'est drôle, le bout où on parle des enfants handicapés, M. Reichmann, je sais pas si. Je comprends encore très mal pourquoi Ségolène a fait comme exprès de donner l'impression qu'elle se fâchait, là, qu'elle était en colère, là.
Oui, c'est une colère simulée.
Oui, c'est
elle,
ça.
Elle a trouvé ce sujet parce que elle cherchait depuis le début le moment de se mettre en colère, car tout ceci a été programmé par ses conseillers, et elle a trouvé l'occasion des enfants handicapés, d'abord parce que ça éveille toujours un sentiment de compassion, bien sûr, chez les téléspectateurs, et d'autre part parce qu'elle s'était elle-même occupée de ce dossier quand elle était ministre, mais elle s'est emportée d'une manière qui n'était pas juste, puisque finalement, le dossier de M. Sarkozy n'était pas mauvais du tout dans cette affaire. Donc, cette colère a été artificielle, et d'autre part, elle a été mal appliquée. Donc, je ne pense pas qu'elle en ait tiré grand bénéfice, et elle a simplement démontré qu'elle était une bonne actrice, à ce point de vue-là.
Une bonne actrice.
Si elle est battue, elle pourra peut-être être engagée pour tourner un film. je ne sais pas lequel. Hein.
Attendez, là, je suis pas sûr là, qu'elle recevra un César ou peut-être une Palme d'Or, quelque chose comme ça.
Parce que ça, il y a quand même des concurrentes qui sont un peu plus douées qu'elle. Je peux vous garantir. Vous savez, si on a besoin de quelqu'un qui marche sur les flots, là c'est son cas. Hein.
Ah ben là,
quand elle arrive en écartant les bras, on a vraiment l'impression que c'est le Christ en personne.
Eh merde, là, juste. Oh, pardon le mot. Mais c'est drôle, mais vous avez vu juste, là, c'est le Christ en personne. Attention, elle risque de remplacer probablement le prochain La Passion du Christ 2, voilà.
Écoutez, c'est tout le mal que je lui souhaite. Enfin, ce que je souhaite, c'est qu'elle n'ait pas de carrière politique prolongée, parce que je crois qu'elle ne sert strictement à rien à la démocratie française, ou à l'absence de démocratie française, car c'est plutôt cela qu'il faut dire. Non, c'est une personne qui est à la fois très creuse, très sectaire, qui a une revanche à prendre. Elle a eu une enfance difficile, difficile en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec son père notamment, et je pense qu'elle est à la recherche d'une revanche, et c'est pour ça que le personnage que vous décriviez tout à l'heure, l'institutrice sévère, lui convient assez bien, parce que c'est un petit peu ce qui lui permet justement, cette autorité trouvée maintenant, lui permet de compenser sans doute pas mal d'humiliations qu'elle a ressenties ou qu'elle a cru ressentir au cours de son enfance.
Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il... Bon, enfin, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il ne regardait pas Ségolène Royal dans les yeux. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai. Ça a été confirmé par des participants, non pas au débat, mais en fait, qui étaient présents sur le plateau. Il ne la regardait pas et il cherchait secours dans le regard des deux journalistes, lesquels ont été absolument en dessous de tout. Pour commencer...
Oh, c'était pathétique, M. Reichmann, les deux journalistes qui étaient sur place, là.
Pathétique.
Ridicule.
Vraiment, Pour vous qui êtes journaliste, et moi aussi d'ailleurs, c'était vraiment le pire des exemples, c'est la disparition derrière,
oui.
sous la gêne provoquée par la crainte de déplaire au candidat. Quand vous pensez qu'ils ont introduit le débat sur les problèmes d'institutions, et immédiatement, Ségolène Royal embarque sur les problèmes sociaux. Donc la moindre des choses pour les journalistes aurait consisté à lui dire, madame, nous sommes désolés, mais nous étions d'accord pour l'ordre dans lequel les problèmes seraient traités. Si ça ne vous ennuie pas, veuillez vous exprimer sur le sujet qui vous a été proposé. Donc,
oui.
Ils ne l'ont même pas fait. Alors, à partir de là, ils ont perdu, bien sûr, le contrôle du débat et ils ont été absents. En plus, très franchement, quand vous les regardiez, madame...
Mais on a eu l'impression tout le long, Monsieur Reichmann, que les deux journalistes en question, je ne sais pas, c'est des gens d'expérience en plus de ce que j'ai compris.
Oui. Oui, absolument. Ce sont des gens, ils sont là depuis 30 ans. Mais la journaliste qui accompagnait Patrick Poivre d'Arvor avait un air totalement ahuri.
Vide.
Vide, le regard vide.
Oui.
C'était, vous savez, la dernière fois que j'ai vu ce genre de regard, c'était des vaches qui regardaient passer les trains.
Oui.
Alors maintenant, on les voit plus tellement parce que les trains sont très rapides et on n'a plus le temps de voir les vaches.
Mais... Exact.
Franchement, c'était absolument pathétique et ils ont été débordés. Alors ce qui était très curieux également, c'est là que finalement, même les gens bien préparés finissent toujours par commettre des erreurs. Monsieur Sarkozy est allé embrasser ensuite la journaliste après le débat.
Oh.
Ce qui est absolument ahurissant. Ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. Parce que, bon, ils s'embrassent toujours, ça, ils se connaissent très bien. C'est ce qui est reproché d'ailleurs à Sarkozy, c'est sa connivence avec beaucoup de journalistes et le fait qu'ils ont des relations qui sont nettement plus étroites qu'elles ne devraient être dans le cadre de l'indépendance de la presse. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite pour l'embrasser. C'est vraiment très, très très mauvais service qu'il se rend à lui-même et qu'il rend à la journaliste également.
Monsieur Reichmann, je vais vous en dire une seule qui est très crue.
Oui.
Vous répondez ou vous ne répondez pas à ce que je vais
d'accord.
vous dire. D'accord, c'est aussi simple que ça, parce que c'est assez dur ce que je vais dire à l'endroit de Sarkozy.
Oui.
Et j'ai eu la confirmation de cette information, mais je vais y aller sous le principe d'une rumeur, Monsieur Reichmann.
D'accord.
Avez-vous déjà entendu parler que Sarkozy avait un fantasme bien spécial? Un fantasme? Oui, parfait. Alors, si déjà je vais vers cette lignée et que vous êtes plus ou moins sûr, qu'il aimerait beaucoup se retrouver dans une partouze avec de jeunes hommes.
Ah bon? Ça, je n'ai jamais entendu parler de ça, non?
C'est parfait. OK, on change carrément de sujet. On va revenir sur...
Non, alors franchement, pourtant, les rumeurs, vous savez, sont nombreuses et... Étant donné que je connais quand même pas mal de monde,
exact.
J'entends beaucoup de rumeurs,
voilà.
Mais celle-là, je ne l'ai jamais entendue.
Parfait.
Jamais.
Alors, je prenais une chance, Monsieur Reichmann.
Si c'est vrai, il faudra peut-être essayer de lui donner satisfaction. Il faudrait peut-être se cotiser pour organiser quelque chose.
Ben oui. il donnait peut-être ses bonbons, histoire qu'il puisse se dire des trucs sensés. le lendemain, Bayrou qui dit « Je ne voterai pas Sarko, mais trois petits points.
Bah, » C'est-à-dire que là, ça n'était une surprise pour personne.
Mais oui.
On savait qu'il ne voterait pas pour Sarkozy, mais il n'a pas dit qu'il voterait pour Ségolène Royal, et d'ailleurs je pense qu'il votera blanc, tout simplement.
Ah, ok.
Il est dans une position un peu délicate, parce que pour voter, s'il disait qu'il vote... pour Ségolène Royal, il se condamnerait en quelque sorte à avoir une attitude politique qui, après l'élection, ira dans ce sens. Or, ça n'est pas du tout son projet. Son projet, c'est plutôt de se faire du gras sur le dos des socialistes quand ils auront perdu. Mais d'un autre côté, il veut apparaître aussi comme le leader de l'opposition à Sarkozy. Donc il lui fallait adopter cette position qui n'est pas très bien comprise par les gens, et qui est d'autant moins comprise que la plupart de ces députés, la quasi-totalité, sauf 3 ou 4 d'ailleurs, sur 29 ou 30, a choisi de soutenir Sarkozy.
Okay.
Bah, il est vrai qu'il y a immédiatement après l'élection présidentielle des élections législatives, et que ces députés sont élus avec des voix qui sont des voix UMP.
Okay.
Donc s'ils voulaient sauver leur place de député, ils étaient obligés d'en tenir compte. Mais d'un autre côté... Il faut quand même se dire que les projets de François Bayrou ne sont pas pour ses députés toujours très très engageants, parce que il veut manifestement créer un parti qui ne s'appellera pas le Parti démocrate, parce que les initiales pourraient prêter à caution, surtout compte tenu de la rumeur que vous venez d'invoquer.
Pardon, j'ai pas compris. Attendez un instant, mes écouteurs ne fonctionnaient pas là. Mes écouteurs ne fonctionnent pas bien, monsieur Reichmann.
Oui, non, je vous disais que monsieur Bayrou s'apprête à créer un parti politique qu'il avait l'intention d'appeler d'abord le Parti démocrate.
Okay.
Alors, il y a renoncé parce que les initiales du Parti démocrate, c'est, comme vous l'avez compris, PD.
Oui.
Et par conséquent, compte tenu de la rumeur, qui ne le concerne pas d'ailleurs, mais que vous venez d'évoquer, je pense qu'il a préféré renoncer. Donc, il va l'appeler sans doute l'Alliance démocrate, l'Union démocrate. Et alors, le problème qu'il va avoir, c'est de présenter des candidats qui ne seront pas forcément en accord avec l'UMP, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça va mettre ses élus dans une position très délicate. Et je crois qu'il va y avoir de toute façon un grand remue-ménage aux élections législatives, parce que aucun des vrais problèmes n'a été abordé pendant la campagne présidentielle. Et inévitablement, quand un problème n'est pas abordé, il ressort d'une manière ou d'une autre plus tard.
J'ai remarqué aussi que Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen appelait à ne pas voter, ou enfin, c'est ça?
Oui, il appelle à l'abstention.
À l'abstention, oui, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça. Il a une position difficile aussi, parce que il a perdu 1 million de voix, que l'essentiel de ses voix sont allées vers Sarkozy. Une partie a dû aller chez Bayrou aussi, des gens qui voulaient simplement contester le système, mais sans aller jusqu'à voter Sarkozy. Mais il a quand même conservé un socle important, plus de 3 800 000 voix, et son objectif, c'est d'essayer de les garder, d'une part, et de les faire revenir éventuellement à l'occasion des élections législatives. Alors, évidemment, c'est difficile, parce que s'il avait donné consigne de voter Sarkozy, ces gens se seront dit, nous avons eu raison de quitter Le Pen pour Sarkozy, continuons. Donc il ne pouvait pas le faire, et puis d'autre part, il n'a pas pour Sarkozy non plus une faveur particulière. Quant à voter pour Ségolène Royal, ça lui posait aussi un problème, d'abord parce que ses électeurs ne sont pas, dans leur immense majorité, favorables aux socialistes, et puis parce que ça aurait été mal compris en général. Donc il a été obligé de choisir une position qui est, je dirais, une position d'attente, et il n'avait pas beaucoup d'autres choix en vérité.
Jusqu'à maintenant, Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si je vous avais déjà posé la question, Monsieur Reichmann, mais pourquoi aurait-il perdu exactement plus d'un million d'individus qui ont dit « Ah, non, je ne voterai pas pour Jean-Marie Le Pen le 21 avril ».
Alors, il y a plusieurs raisons à cela.
Plusieurs facteurs,
qui sont assez simples, d'ailleurs. Bon, la première raison, c'est que Sarkozy a tenu un discours qui reprenait beaucoup des thèmes favoris du Front National, et donc ça a placé le Front National en position d'être pillé par Sarkozy. Et probablement Jean-Marie Le Pen a-t-il commis la faute de considérer que ses électeurs lui étaient acquis. Il a eu 4 850 000 voix, je crois, en 2002, mais il faut savoir qu'un électeur n'est jamais acquis définitivement, et donc l'idée qu'avait Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on préférerait toujours l'original à la copie.
Okay.
Mais il s'est trompé, parce qu'il y a des gens qui, pour des raisons diverses, ont préféré la copie. Et d'autre part, je crois même que c'est l'élément majeur, les électeurs de Jean-Marie Le Pen ont été très déçus en 2002 du fait que, malgré sa présence au deuxième tour, ça s'est traduit finalement par 5 années de domination sans partage de Chirac, et ils se sont dit, si nous votons Le Pen cette fois-ci, le résultat sera le même, si nous le faisons accéder au deuxième tour, il y aura une coalition contre lui, et il sera battu une nouvelle fois, et nous en reprendrons pour 5 ans de la même manière. Donc ils se sont dit que le vote utile, ça consistait à voter Sarkozy, et en partie à voter Bayrou. Mais je pense que c'était cette deuxième raison était probablement la raison majeure, à quoi il faut ajouter aussi le fait que la campagne de Jean-Marie Le Pen n'a pas été bonne.
Okay.
Elle a été mal cernée, et elle est partie un peu dans toutes les directions. Et il s'est aperçu très tard que Sarkozy lui prenait une part importante de ses électeurs, alors il s'est mis à cogner sur Sarkozy et sans discernement. en particulier en lui reprochant ses origines étrangères, ce qui a eu le don de d'inquiéter un certain nombre de personnes, et notamment, vous savez, je crois qu'il y a en France à peu près 40% des gens qui ont un grand-père étranger, donc beaucoup d'électeurs favorables éventuellement à Le Pen se sont dit, mais attention, c'est moi qui l'attaque en ce moment, et donc ça n'est pas une bonne chose. J'avais encore au téléphone tout à l'heure quelqu'un qui me faisait cette réflexion, et il disait, je suis d'origine italienne, bon, je suis favorable à Jean-Marie Le Pen, mais là, j'ai été assez vexé qu'ils disent que je n'aurais pas le droit, par exemple, d'être candidat à la présidence de la République, parce que je ne suis pas à 100% français d'origine. Donc tout ça, ça a été des erreurs et des improvisations de fin de campagne,
oui,
qui se sont traduites par un score évidemment très décevant pour lui, mais cela dit, il ne faut pas l'enterrer trop vite, donc, parce que 3 800 000 voix, c'est beaucoup.
Ouais, mais attendez un instant, là, M. Reichmann, je suis plus ou moins d'accord. Vous perdez 1 000 000 demain matin, et c'est grave quand même, là, attention.
Ce n'est pas grave parce que je ne les ai pas, donc. pour vous, peut-être, si vous avez 2 000 000 d'auditeurs, si vous en perdez un d'un coup, c'est très ennuyeux.
Ben voilà, mais alors c'est la même chose, c'est la même chose pour les élections. Si on perd 1 000 000 de votes, c'est grave. Il faut se poser sérieuses questions sur la campagne, sur comment on a fait la campagne. Je sais que vous venez de me le dire, mais est-ce que vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen, à son âge, devrait prendre sa retraite? Et je vous ai déjà posé la question, vu que la poussière est retombée, est-ce que, par exemple, Marine Le Pen ne pourrait pas prendre sa place, histoire de rafraîchir l'image de Jean-Marie Le Pen, ou enfin du Front National?
Écoutez, sur cette question, il y a comme toujours plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'effectivement, Jean-Marie Le Pen a souffert, en raison de son âge et de son image, qui n'est quand même plus celle d'un jeune homme, du fait que les trois autres candidats principaux sont des quinquagénaires. Donc on voyait la différence, c'est important. Deuxièmement, il est vraisemblable que son âge, une certaine fatigue peut-être, l'ont dissuadé de faire une campagne très très active. Il a quand même mené une campagne, mais peut-être aurait-il pu faire plus. Alors quant au problème de la succession, c'est un problème qui est compliqué parce que Marine Le Pen ne fait pas l'unanimité au sein du Front National. Donc elle est appréciée par beaucoup, mais elle est surtout appréciée en dehors du Front National, si vous voulez. Donc sa position n'est pas évidente, et celui qui pourrait être candidat lui aussi à la succession, et qui a été même souvent présenté comme tel par Jean-Marie Le Pen, à savoir Bruno Gollnisch, n'a pas non plus une carrure et un charisme qui font de lui l'héritier automatiquement désigné. Donc je crois que tout ceci fait que Jean-Marie Le Pen se s'est senti autorisé à être candidat une fois de plus. Il a même indiqué qu'il conduirait le parti jusqu'aux élections européennes de 2009, c'est dire qu'il n'a pas une seule seconde à envisager l'idée de dételer.
Alors dans le fond, peut-être que, je sais pas, histoire de... J'ai l'impression qu'on met une Marine Le Pen au Front National et qu'elle grugerait des voix dans le Parti Socialiste. Vous pensez pas? Est-ce que c'est quelque chose de possible?
Je ne sais pas.
Une femme? Non?
Si elle prendrait des voix. Ce qui est sûr, c'est que c'est une...
Vous savez, je suis en marketing, Monsieur Reichmann, je suis en marketing, et l'image de la femme en ce moment, à l'heure qu'on se parle, est très vendeur. Tandis que celle de l'homme est en chute libre totale.
Oui, vous avez raison. Elle a eu beaucoup de succès médiatique.
Mais
elle
était
présente pendant la campagne.
Elle a même fait.
Ça n'a pas suffi.
Mais oui, M. Reichmann, elle a même eu une entrevue ici avec les francs-tireurs. Faut le faire.
Avec les francs-tireurs?
Oui, les francs-tireurs. Richard Martineau et Patrick Lagacé, ce sont deux journalistes qui animent l'émission Les francs-tireurs.
Et d'accord.
Ils avaient un tournage à Paris et ils ont réussi à avoir une entrevue avec Marine Le Pen. Voilà.
D'accord. Mais Marine Le Pen a pour elle, d'abord, de connaître bien les dossiers. C'est un bon débatteur. Elle a, en plus, elle dégage une certaine joie de vivre, une certaine compétence également. Et donc, je pense, en tout cas, on pouvait imaginer que si elle avait été candidate, elle aurait peut-être fait un meilleur score que son père, ne serait-ce que parce que le besoin de renouvellement en France est très important. Mais vous savez, c'est toujours très difficile. D'abord, a posteriori, on n'en sait rien. Et d'autre part, Marine Le Pen, jusqu'à présent, n'existe politiquement qu'à travers son père, même si elle a beaucoup de qualités personnelles.
Okay.
Donc, il faut faire très attention à cela. Et Enfin, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, une succession se dégage, et on verra à ce moment-là si le Front National est capable de dégager une candidature qui fera sinon l'unanimité, du moins une large majorité, ou sinon il risque de se diviser, ce qui évidemment serait pour lui fatal.
Est-ce que là, le 6 mai, vous allez, c'est ça, au bulletin de vous allez mettre votre petit X, ou enfin c'est rendu électronique, hein, je crois?
Non, ce sont encore des votes papier. Les votes électroniques ont été essayés, mais apparemment ils n'ont pas donné satisfaction. Donc pour l'instant, les quelques communes qui l'avaient institué y ont renoncé. Donc on va voter avec les bulletins traditionnels en papier.
Ok, alors le 6 mai, on appelle les gens à aller voter. Vous allez voter blanc ou...
Écoutez, je ne...
Est-ce que vous allez suivre la ligne directrice?
Oui. Je ne voterai pas contre mon camp. Bon, mon camp, c'est la droite. Il est évident que je ne ferai rien. Je ne voterai en aucune manière pour la gauche.
Ok.
Alors, je suis un petit peu... Bon, je suis évidemment tenté de voter pour Sarkozy parce que, d'abord, c'est quand même le... Qu'on le veuille ou non, c'est quand même le candidat de la droite.
Oui.
Deuxièmement, ce qu'il dit me satisfait en grande partie puisque le discours qu'il a tenu, par exemple, au cours du débat ou bien des discours qu'il a tenus ailleurs à Bercy par exemple sont des discours qui vont exactement dans le bon sens. Mais d'un autre côté, sa personnalité ne me séduit pas du tout. Je n'ai qu'une confiance très modérée en lui dans la mesure où c'est quelqu'un qui, au cours des 30 années où je l'ai vu faire de la politique, a défendu tour à tour toutes les politiques possibles et imaginables. C'est un contorsionniste, comprenez-vous? Et donc, le contorsionniste, c'est quelqu'un qui, au moment où vous ne vous attendez pas, vous présente son derrière, alors qu'il vous deviez le regarder au fond des yeux, quoi.
Oui.
Donc, c'est quelque chose d'inquiétant, parce que je me dis qu'il peut à tout moment, fort du succès qu'il aurait obtenu, vous faire avaler une politique qui n'aura rien à voir avec celle qu'il a proposée. Alors, voilà à peu près le dilemme. Mais la plupart de mes amis ont résolu ce dilemme en votant finalement pour lui, et je pense que c'est ce que je finirai par faire, parce que bon, il faut pas non plus s'amuser dans une élection présidentielle.
Mais non.
Je vous avoue que c'est sans enthousiasme que je le ferai, parce que je considère que son parcours n'a absolument rien pour me rassurer. Il en irait tout autrement si sa personnalité me rassurait, parce qu'à ce moment-là, je n'aurais aucune raison, mais vraiment aucune, de ne pas voter pour lui. C'est donc ma seule inquiétude, mais elle est quand même sérieuse, dans la mesure où vous savez bien que la politique, c'est évidemment des idées et des programmes, mais c'est surtout des personnalités. C'est la façon dont on gouverne tient beaucoup plus à la personnalité de quelqu'un qu'au programme qu'il a développé. Et là, nous avons face à nous quelqu'un dont la personnalité est assez inquiétante, d'autant plus que, ne l'oubliez pas, et c'est un petit peu ce que je vous disais en commençant, il a vendu pendant 30 ans de la salade d'État-providence. Il a quand même géré un État-providence, il nous a expliqué des tas de choses sur le système social, maintenant il les renie, mais encore fallait-il s'en apercevoir plus tôt. Enfin bref, il y a toute une série de causes qui font qu'on a des raisons de se méfier. Cela étant dit, il y a une attitude très simple qui consiste premièrement à voter pour lui, et deuxièmement à lui demander rapidement des comptes. Donc c'est probablement ce que nous allons faire.
Probablement.
C'est-à-dire que bon, pour nous, il est clair que nous voulons une politique de droite. Bon, il s'engage à la mener, très bien, faisons-lui le crédit temporaire de lui permettre, puisqu'il est le seul à pouvoir le faire, quoi, puisque d'autres n'ont pas été sélectionnés, donc de tenter cette action, et s'il n'y parvient pas, comme j'en suis convaincu, ben c'est alors que nous lui présenterons l'addition.
Exactement. Monsieur Reichmann, le 6 mai, c'est sûr que la semaine prochaine, j'espère pouvoir discuter avec vous vendredi prochain, est-ce que c'est possible?
Ah oui, il n'y a absolument aucun problème. Je regarde simplement si je n'ai pas d'engagement particulier. Si j'ai rendez-vous avec Sarkozy, mais je vais l'annuler.
Oui, mais quand même, allez, là,
le 11 mai, non, je plaisante. Donc, le 11 mai, nous parlerons à la même heure que d'habitude, c'est-à-dire à 17h, heure française, à quelle heure? À midi? 11h ou midi?
11h, 6h de décalage.
Heure canadienne.
Voilà, M. Reichmann, merci pour vos commentaires et aussi pour cette entrevue tant appréciée de la part des auditeurs et aussi par moi. Attention, là, je suis quand même un de vos fans.
Ah ben écoutez, c'est très gentil à vous, M. Trépanier.
Oui.
J'ai grand plaisir à vous parler, donc faites mes amitiés à tous ceux qui sont autour de vous.
Tout à fait.
Et puis, bien sûr, mes amitiés à tous les auditeurs.
Bonne
à
fin.
Bientôt.
Bon week-end, M. Reichmann.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. On s'arrête un tout petit instant, nous, pour vous dire le mot de la fin. Restez là, en bas des culs, il est 11h47, on va parler encore de sexe, on verra bien. Branchez sur le www.rockick.com, wake up le show, live@rockick.com, live@rockick.com, en bas des culs.
Sport. Lundi au vendredi, une chose à dire, Hard Sport avec Christian Ballard.
Une opinion bien du sport de 13 à 14 heures pour l'Europe, 19 à 20 heures.
C'est simple, live@rockick.com pour communiquer, soit en ondes ou par courriel. Hard Sport, c'est ton show.
Rockick.com. Rock Radio. Rock and Roll Station. Hey, parents, qu'est-ce que t'en penses de Rockick.com?
Qu'est-ce que c'est fort?
Rockick.com, we are the world.
Enemy down.
Devil, yeah.
Rockick.com.